5. Je fus réveillé par Ahmet qui me secouait. C'était mieux que les claques. Ma gueule de bois avait disparu. Car il s'agissait bien de ça. Et je ne comprenais pas comment mon père avait pu supporter cet état tous les matins à l'époque où il buvait. Mon épaule gauche m'élançait. Sans doute m'étais-je fait une élongation en tombant du piédestal, mais les autres douleurs étaient moins intenses.
Combien de temps j'ai...
Debout, c'est eux. Attention à leur cravache.
Je me relevais. La porte au bout du couloir s'ouvrit et s'emplit d'une lumière bleutée. 3 soldats de la nuit entrèrent, grands et pâles à l'intérieur de leurs auras. Leurs squelettes apparaissaient et disparaissaient comme des ombres par un jour de grand vent quand les nuages filent dans le ciel. Ils brandissaient de longues badines métalliques qui ressemblaient à des antennes de voitures d'autrefois.
« Debout !» ordonna l'un d'eux. « C'est l'heure de jouer !»
2 soldats de la nuit précédaient le 3e, les bras tendus devant eux, tels des pasteurs qui accueillent leurs fidèles avant l'office. Les portes des cellules s'ouvraient sur leur passage en grinçant, faisant pleuvoir des écailles de rouille. Le 3e s'arrêta devant moi et me montra du doigt.
« Pas toi !»
30 prisonniers sortirent dans le couloir. Ahmet m'adressa un rictus de désespoir en prenant soin d'éviter l'aura du soldat de la nuit immobile. Tout sourire, Ayota leva les mains, fit des cercles avec ses pouces et ses index et pointa ses majeurs sur moi. Ça ne ressemblait pas vraiment à un doigt d'honneur de chez nous, mais j'aurais parié que ça voulait dire la même chose. Lorsque les prisonniers suivirent les 2 soldats de la nuit vers la sortie, je remarquai parmi eux 2 femmes et 2 noirs, dont un plus imposant encore que Ayota. Il avait les épaules larges et les fesses rebondies d'un joueur de football professionnel, mais il marchait lentement, tête baissée, et avant qu'il franchisse la porte, je le vis vaciller. Il s'appelait Domi. Les filles se nommaient Jaya et Eris. Le 3e soldat de la nuit me fit signe d'approcher en agitant son long doigt pâle. Son expression était sévère, mais derrière, son crâne laissait entrevoir par intermittence son sourire permanent. Avec sa badine, il me fit signe de marcher devant lui jusqu'à la porte. Mais avant que je la franchisse, il m'arrêta.
« Stop ! Ah, merde !»
Sur notre droite, un des brûleurs à gaz s'était détaché du mur. Il pendait au bout de son tuyau métallique, de travers, sous un trou semblable à une bouche béante, mais il continuait à produire une flamme et à noircir de suie un des blocs de pierre. Lorsqu'il se pencha pour le remettre en place, son aura me frôla. Je sentis alors mes muscles s'affaiblir. Et je compris pourquoi Ahmet avait pris soin d'éviter cette enveloppe bleue. C'était comme de recevoir une décharge électrique à cause d'un fil de lampe dénudé. Je reculai d'un pas.
« Ne bouge pas, je t'ai dit. »
Le soldat de la nuit se saisit de la lampe qui semblait en cuivre. Elle devait dégager une chaleur d'enfer et pourtant il n'exprima pas la moindre douleur. Il la renfonça dans le trou. Elle y resta fixée un instant, puis retomba.
« Putain !»
Une vague d'irréalité me submergea. J'étais enfermé dans un cachot. Un mort-vivant qui me rappelait la figurine Skeletor avec laquelle je jouais enfant me conduisait je ne sais où. Et cette créature s'occupait d'une vulgaire tâche ménagère. Le soldat reprit le brûleur et plaça sa main en coupe au-dessus de la flamme pour l'étouffer. Après quoi, il laissa retomber la lampe éteinte contre le mur dans un tintement.
« Allez, avance, bordel !»
Il abattit sa badine sur mon épaule meurtrie. La douleur fut comme une brûlure. Se faire fouetter était à la fois humiliant et désagréable, mais je préférais cela à la paralysie que j'avais ressentie lorsque son aura m'avait frôlé. J'avançais. 6. Il me suivit dans un long couloir aux parois de pierre, de près, mais pas assez pour que son aura me touche. On passa devant une porte hollandaise, dont la partie supérieure, ouverte, laissait échapper une délicieuse odeur de cuisine. Je croisai un homme et une femme, l'un portant 2 seaux, l'autre un plateau de bois fumant. Ils étaient vêtus de blanc, mais leur peau était grise et leur visage s'affaissait.
« Avance !»
La badine s'abattit de nouveau sur l'autre épaule cette fois.
« Vous n'êtes pas obligé de me frapper, monsieur. Je ne suis pas un cheval. »«
Si !»
Il avait une drôle de voix, comme si ses cordes vocales étaient entourées d'insectes.
tu es, mon cheval. Estime-toi heureux que je ne t'oblige pas à galoper. »
On passa devant une salle qui abritait des instruments dont j'aurais préféré ne pas connaître les noms. Le chevalet, la vierge de fer, l'araignée espagnole, l'écarteur. Je remarquai des taches sombres sur le plancher. Un rat de la taille d'un chiot se dressa sur ses pattes arrière à côté du chevalet et m'adressa un rictus. « Seigneur Dieu Tout-Puissant,
tu te réjouis d'être saint, hein ?»
me demanda mon gardien.
« On verra si tu te réjouis encore quand le 1 contre 1 commencera. »
« Qu'est-ce que c'est ?» En guise de réponse, je reçus un autre coup de badine sur la nuque pour changer. J'ai porté la main et la retirai rouge de sang.
« À gauche, petit, à gauche. N'hésite pas, c'est ouvert. »
Je poussai la porte qui se trouvait sur ma gauche et gravis un escalier raide et étroit qui paraissait infini. Je dénombrai 400 marches avant de perdre le compte. Mes jambes commençaient à me faire mal et la petite entaille sur ma nuque provoquée par le coup de badine m'élançait.
« Tu ralentis, petit. Continue à monter si tu ne veux pas sentir le feu froid. »
S'il parlait de l'aura qui l'entourait, la réponse était non, je n'en avais aucune envie. Je continuais à monter et juste au moment où je craignais que mes cuisses tétanisées par les crampes refusent d'aller plus loin, on atteignit une porte tout en haut. J'étais à bout de souffle. Contrairement à cette créature qui avançait derrière moi, ce qui n'était pas étonnant, elle était morte après tout. La porte s'ouvrait sur un couloir plus large, où étaient suspendues des tapisseries en velours dans des tons rouges, violets et bleus. Les brûleurs à gaz étaient protégés par de jolies cheminées en verre. Ce sont des appartements, pensais-je. Je remarquais plusieurs petites niches, vides pour la plupart, et me demandais si elles avaient abrité autrefois des sculptures représentant des papillons. Certaines accueillaient des figures de marbre, des hommes et des femmes nus, dont une brandissait une chose particulièrement horrible, enveloppée d'un nuage de tentacules qui masquait sa tête. Cela me fit penser à Jenny Schuster, qui m'avait fait découvrir le monstre préféré de H.P. Lovecraft, Cthulhu, également connu sous le nom de « Celui qui hante les ténèbres ». On dut parcourir presque un kilomètre dans ce passage richement décoré. Un peu avant la fin, on passa devant des miroirs dorés qui se faisaient face et multipliaient mon image à l'infini. Je constatais que mon visage et mes cheveux étaient crasseux, conséquence des dernières heures pendant lesquelles j'avais tenté de fuir Lilimar, et j'avais du sang dans le cou. On aurait pu croire que j'étais seul. Le soldat de la nuit ne projetait aucun reflet. Là où il aurait dû apparaître, il n'y avait qu'une légère brume bleutée, et la badine, qui semblait suspendue dans le vide, comme par magie. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule pour vérifier que mon gardien était toujours là, et la badine me frappa, en choisissant le même endroit sur ma nuque. La sensation de brûlure fut instantanée.
« Avance ! Avance, bordel ! »
J'obéis. Le couloir prit fin devant une porte massive. En acajou, devinai-je, avec des dorures. Le soldat de la nuit me tapota la main avec son horrible badine et fit de même sur la porte. Je compris le message, je frappai à la porte. La badine s'abattit sur mon épaule, déchirant mon t-shirt.
« Plus fort !»
Je martelai la porte avec mon poing. Des filets de sang coulaient sur mon bras et sur ma nuque. La sueur attisait la douleur. « Je ne sais pas si tu peux mourir, espèce d'infâme salopard bleu, » pensais-je, « mais si l'occasion se présente, je ne te louperai pas. » La porte s'ouvrit, et devant moi apparut Kéline, alias le grand intendant, vêtu d'une veste de smoking en velours rouge.